L'Afrique en jeu, Silver Henri Cissé.
J'avais déjà participé au championnat du monde en 2015, mais c'était les phases de poule, et là, avoir la finale à Paris, c'est vraiment, c'est dingue. Donc voilà, je suis ici pour ça, parce que c'est une ambiance de folie, et je pouvais pas rater ça.
Moi, à la base, je viens du monde du sport. Je suis un passionné de jeux vidéo aussi, et je trouve que ça concilie bien les deux.
On se retrouve là comme on serait là pour un match de foot, c'est vraiment génial.
Tiens, nous allons nous amuser à un petit jeu. D'après vous, de quel sport s'agit-il? Les supporters que vous avez entendus sont fans de quelle discipline sportive? Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Eh bien, il s'agit d'aficionados de e-sport. Interrogé en 2019 lors de la finale des championnats du monde du jeu League of Legends. Ce jour-là, 17 000 personnes chauffées à blanc étaient réunies dans une salle archi-comble à Paris pour assister à la victoire de l'équipe chinoise Fun Plus Phoenix, qui au passage empochait un chèque de 800 000 euros. Vous avez bien entendu, 800 000 euros. League of Legends, ce jeu qui mélange stratégie, jeu de rôle, est suivi partout dans le monde par quelques 100 millions de joueurs actifs. Les sports électroniques ont tapé dans l'œil du comité olympique qui a décidé de créer une compétition dédiée à cette discipline que certains ne considèrent toujours pas comme un sport. Eh bien, nous en parlerons aujourd'hui avec le président de la Confédération africaine de e-sport. Avec une femme également, une femme inspirante qui à Cotonou est complètement investie dans le e-sport. Des sports apparaissent, d'autres disparaissent. Une photo, une histoire sur les sports disparus et oubliés des Jeux olympiques avec l'historienne Sandrine Lemaire. L'Afrique en jeu. J-6, ça approche vraiment, nous y sommes presque, c'est maintenant. Hicham El Khelaifi, merci d'être avec nous dans l'Afrique en jeu.
Merci à vous, merci à RFI.
Outre le fait que vous soyez le dirigeant d'un groupe média important au Maroc, vous êtes le président de la Fédération royale marocaine des jeux électroniques, que l'on nomme également e-sport. Vous êtes aussi le président de la Confédération africaine des sports digitaux et vice-président de la Fédération internationale des sports électroniques. Thomas Barr en a fait l'annonce lui-même, ce qui montre l'importance de la nouvelle, la création prochaine des Jeux olympiques de sport électronique. Est-ce que c'est une consécration pour vous, Hicham ?
Tout à fait, parce que nous, on y croit, tout simplement parce que, comme vous l'avez si bien dit en introduction, les gens se posent la question, est-ce que c'est un sport ou c'est pas un sport ? En fait, les choses évoluent. Donc maintenant, c'est un sport. Bien sûr, c'est un sport. Je dis aux gens, c'est comme, est-ce que les échecs sont considérés comme un sport ? Il y en a certains, il y a eu un débat, ça reste un sport. En fait, on fait bouger le pouce, les neurones, et il y a une interaction avec la machine. Voilà, donc c'est un sport. Qu'on le veuille ou non. Et maintenant, on est dans le 21e siècle, on est dans le siècle du digital, dans le numérique. Il faut être dans l'air du temps et s'adapter à son temps.
Je vais un peu vous taquiner, Hicham, parce que vous avez justement défendu votre discipline en disant que c'est un sport. La définition du dictionnaire au mot sport nous indique activité physique exercée dans le sens du jeu et de l'effort. Alors, est-ce qu'on peut considérer le e-sport au même niveau d'engagement que l'athlétisme, le basket ou le football, même si on utilise le pouce et si on utilise les neurones ?
Non, c'est juste aussi, il y a une question à se poser. Quand est-ce qu'il a été fait, ce dictionnaire ?
Écoutez, c'est la dernière version, 2023.
2023, et il faut la comparer par rapport à la définition de 1912, quand il y a eu les Jeux Olympiques de Pierre de Coubertin. On a gardé la même définition à un moment, il faut la mettre à jour par rapport à l'évolution du temps. Donc, bref, ça c'était le premier point. Bien sûr qu'il y a des efforts, ils sont essoufflés, il y a une concentration mentale, on est bien d'accord, toute chose égale par ailleurs, c'est pas le même effort physique pour faire du foot, c'est pas le même effort pour l'athlétisme, mais je peux vous assurer que l'attention est au maximum, la concentration est au maximum, et puis on fait bouger un petit peu son corps.
Je vous taquinais, et je jouais l'avocat du diable parce que c'est une véritable discipline sportive comme les échecs. Et notamment les joueurs de e-sport comme les joueurs d'échecs ont une préparation qui est digne d'une préparation sportive. Dans le sport, il est une valeur, c'est le respect de l'intégrité de la personne et de l'athlète. Comment allez-vous intégrer les sports de guerre, notamment ce qu'on appelle les FPS en anglais, les First Person Shooter, où l'action est souvent violente, et filmée du point de vue du personnage, où l'on utilise des armes. Comment vous allez intégrer ces jeux-là, alors ?
En tout cas, en ce qui me concerne au Maroc, on a beaucoup de distance par rapport à ces jeux. D'accord ? Même notre ministre de tutelle, on relève du ministère de l'Éducation et du Sport, on ne va pas faire ces jeux-là. franchement, c'est rare. C'est très rare, pratiquement, on n'organise pas de compétition par rapport à ces jeux-là, parce qu'on doit rester quand même, dans, comme vous l'avez si bien dit, dans le respect. Il faut que ça reste dans l'éducation et dans le développement personnel de l'athlète. Donc, aller pour ces jeux, on évite au maximum, pour être honnête.
En 2022, le secteur du gaming dont nous parlons, il faut que les auditeurs s'en rendent compte, hein, représentait 3,2 milliards de joueurs. Il s'agit de, et là je parle de 2022, hein, les chiffres ont dû certainement augmenter, 220 milliards de dollars de chiffre d'affaires et une croissance annuelle du marché de plus de 18%. Est-ce que vous avez vraiment besoin des Jeux Olympiques parce que vous êtes la première industrie loisirs au monde aujourd'hui devant les cinémas et les plateformes vidéo? Vous pourriez organiser votre propre compétition, vous le faites déjà, hein, mais votre propre compétition qui soit l'égale des Jeux Olympiques, des e-sports, et surtout ne pas partager les revenus, les garder pour vous, Hicham.
En fait, nous, par exemple, les fédérations, on ne gagne pas encore beaucoup d'argent, hein, donc ce sont plutôt les éditeurs, c'est ça la particularité de e-sports, c'est celui, le créateur de jeux, hein, qui gagne le plus. En revanche, nous, on a cette approche plutôt compétition. Vous savez, il y a une différence pour nous entre le gaming et le e-sport. Le gaming, c'est en global le jeu. C'est le jeu, tous ceux qui jouent. Le e-sport, c'est dès qu'il y a une compétition. Donc, on a toujours besoin d'instances qui régulent pour qu'il y ait l'universalité. C'est ce qu'est le CIO, donc, où tous les pays qui vont participer se reconnaissent dans une instance où on peut jouer, où il y a une définition des règles. C'est ce qui est le cas, par exemple, avec l'IESF, l'International Esports Federation, qui essaie un petit peu d'organiser les compétitions, qui est de rassembler, de fédérer et de prôner pour un jeu sain.
Donc, le Comité Olympique va vous aider, en fait, à normaliser le sport à travers la planète entière, à vous donner une norme commune pour tous les sports.
Exactement. C'est exactement ça. C'est pour ça qu'on a créé la Confédération africaine, pour qu'on soit prêt. Une confédération créée l'année dernière et qui comprend 47 pays. Pour vous dire, en plus, on a des difficultés parce que c'est nouveau, hein, qu'on le veuille ou non, même si ça existe depuis longtemps, c'est nouveau. Même dans les gouvernements, on n'intègre pas encore le e-sport. Même en France, hein, vous savez qu'en France, il n'y a pas de fédération. Alors qu'au Maroc, il y a une fédération qui relève d'un ministère et que c'est bien régulé, il y a des compétitions qui sont régulées. Donc, on a créé la Confédération africaine pour accompagner les pays pour qu'ils se dotent d'une fédération, sachant qu'il y a des pays qui ont déjà des fédérations.
Il était important de vous avoir au téléphone pour nous éclairer sur ce sujet qui est un phénomène mondial extraordinaire et sur lequel nous avons peu d'informations. Surtout, vous restez avec nous, Hicham, hein, parce que nous allons nous retrouver d'ici quelques instants. Mais tout d'abord, nous allons retrouver une femme inspirante, complètement investie dans le e-sport.
Une femme, un destin.
Et le destin de Naomi Durand à Cotonou. Merci d'être avec nous, Naomi.
Merci à vous de m'avoir invité. Bonjour à vous.
Naomi, vous êtes une entrepreneuse dans la restauration. Vous êtes développeuse de logiciels et designer d'intérieur. Vous êtes un véritable couteau suisse, car vous avez aussi une dernière lame. Vous êtes une gameuse. Est-ce que ça surprend à Cotonou, où vous habitez, quand vous présentez comme une gameuse?
Oui, ça surprend assez de faire tout ça à la fois, d'être entrepreneur et en même temps de jouer aux jeux vidéo. Parce que ici, en fait, les femmes sont assez marginalisées, stigmatisées. Et on se dit toujours, les filles, elles ne peuvent pas jouer aux jeux vidéo. Vous voyez un peu?
Je vois tout à fait. Comment vous considère-t-on quand vous vous présentez comme une gameuse au Bénin, dans la vie de tous les jours, en disant, ben voilà, par exemple, je joue à tel jeu. Comment vous regarde-t-on? Qu'est-ce qu'on vous dit?
Bon, personnellement, j'ai eu à faire face à des préjugés sexistes quand je dis que je joue aux jeux vidéo assez sérieusement. Et on va dire que dans la tête de nos mamans ou bien en général chez nous ici, on dit une femme n'est pas censée échanger une casserole pour une manette. Donc, les femmes, chez nous, on essaie quand même de faire l'effort nécessaire pour briser ce stéréotype-là.
Vous êtes une gameuse qui ne se contente pas de jouer aux jeux vidéo dans votre salon, mais qui dispute des compétitions, notamment sur le jeu Tekken. Et vous avez des références, puisque vous avez remporté des tournois au Togo, au Mali. Vous avez fini 4e dans une compétition au Kenya et 5e dans une compétition en France. Comment devient-on professionnel comme vous?
Il faut beaucoup s'entraîner, c'est surtout ça. Et je ne dirais pas forcément de faire partie d'une association, mais c'est plus s'entraîner, plus sortir de la tête, montrer de quoi on est capable.
Vous avez débuté la compétition il y a 2 ans. Est-ce que vous pouvez en vivre aujourd'hui?
En Afrique, pas encore. Il faut forcément être dans le top 3 pour le moment, pour espérer gagner des prix ou des titres.
Vous n'êtes pas très loin du top 3.
Oui.
En ce qui concerne en tout cas le jeu Tekken. C'était pas évident quand vous êtes tombée dedans toute petite. Comment vos parents ont réagi en vous voyant devant la console?
Les parents n'étaient pas trop d'accord. Je vais essayer de vous raconter une petite histoire. Je suis devenue orpheline très tôt, à 12 ans. Donc, j'avais besoin d'un exutoire pour pouvoir dépasser ce sentiment de perte-là. Et je crois que les jeux vidéo m'y ont aidé. Ensuite, on va dire que j'ai rencontré Lionel, qui est un ami, un coach, qui m'a fait rencontrer en fait le président de l'association Meda Djekété, l'association Afrique Gamer, qui, eux deux, quand même, m'ont permis de participer aux compétitions internationales et aussi aux compétitions ici au Bénin. Et on va dire que ma mère n'était pas très d'accord, mais avec le temps, elle a commencé à adhérer parce que naturellement, il faut voyager, il y a des prix à gagner. Donc, ça l'a énormément encouragée, l'a confortée dans le sentiment de me laisser poursuivre mon objectif.
Pour la petite histoire, parce que je le sais, vous avez arrêté le jeu vidéo sous la pression de vos parents et c'est à l'université que vous allez reprendre le jeu vidéo. Pourquoi ? Ça vous manquait ?
Oui, oui, ça m'a énormément manqué parce qu'il fallait travailler à l'école, vraiment être concentré, donc il ne fallait pas toucher aux jeux vidéo. Donc, dès que j'ai trouvé l'occasion de m'y remettre, je me suis en même temps remis au travail, quoi, c'est ça.
Et comment réagissent vos parents aujourd'hui devant les différents succès que vous avez pu enregistrer, comme je l'ai dit tout à l'heure, au Togo, au Mali, au Kenya ou en France ?
Ils sont très fiers, on va même dire que ce sont mes coachs à la maison. On me demande « quand est-ce que tu t'entraînes aujourd'hui ?» Et là, voilà. Donc, je sens qu'il y a aussi un gros coup de pouce derrière. Voilà.
Vous faites partie de l'équipe dont vous nous avez parlé, Afrique Gamers. Et cette équipe, elle a une particularité, c'est qu'elle a été quand même un peu construite autour de vous, Naomi.
Oui. Le président de l'association voulait quand même qu'il y ait une équipe féminine qui puisse représenter le Bénin à l'international. Donc, actuellement, nous sommes 4. Et on travaille d'arrache-pied quand même pour représenter la gente féminine ici et à l'international.
Pour les jeunes filles qui nous écoutent, Naomi, et qui n'osent pas à cause de la pression sociale, de la pression familiale, qu'est-ce que vous pourriez donner comme conseil ? Allez, coachez les auditrices qui vous écoutent là en ce moment.
Bon, si j'ai un message à lancer à mes sœurs, à mes amis et tout, je dirais, mes chéries, restez authentiques, fortes, et ne lâchez jamais le joystick. Enfin, quand je dis joystick, je dis manette.
Oui, on a bien compris. On l'a bien compris et on s'arrêtera là. Et ouais. Ce qui est important aussi, c'est que vous avez parlé de sexisme, que vous avez combattu et vaincu, parce que vous en êtes là arrivé, pas au sommet, mais en tout cas à un très très bon niveau. Qu'est-ce que vous pourriez leur donner comme tuto, comme conseil à ces jeunes filles qui nous écoutent quand elles ont affaire au sexisme ?
De ne pas se laisser faire. De ne pas se laisser marcher dessus. Je ne dis pas forcément d'être agressif, mais quand même de prendre sur soi et de faire ce qu'il y a à faire. Si elles ont un objectif donné, dans le sens de briser ce stéréotype-là, qu'elles y aillent sans hésiter.
Merci Naomi. Vous savez que j'ai un rêve maintenant, hein, Naomi. Maintenant que je vous connais, c'est de voir briller dans une compétition internationale de e-sport et que vous arriviez à la première position. Comme ça, je pourrais dire, oui. Je la connais. Je compte sur vous.
Oui, oui, bien sûr. Merci beaucoup.
Merci à vous d'être venu dans l'Afrique en jeu.
Au revoir.
Vous écoutez l'Afrique en jeu sur RFI avec Silver-Henri Cissé.
Nous sommes avec Hicham El Khlifi, le président de la Fédération royale marocaine des Jeux électroniques, le président de la Confédération africaine des sports digitaux et vice-président de la Fédération internationale des sports électroniques. Alors Hicham, certains nouveaux sports offrent un véritable potentiel de médaille à l'Afrique. Comment se situe le niveau africain par rapport au reste du monde ?
Bah, écoutez, je vais vous donner un exemple. L'année dernière, pour vous donner une idée, le Maroc s'est doté d'une fédération il y a 2 ans. L'année dernière, pour les IFIFA, la compétition donc, du temps où donc, l'éditeur donc, EA était encore avec FIFA, le Maroc s'est classé 6e au monde. À l'heure où je vous parle, nous avons toujours avec EA, donc l'éditeur qui organise les championnats du monde, on a un Marocain parmi les 16 meilleurs dans le monde. Donc le talent existe, il faut le talent, parce que c'est lié à la personne. Comme en athlétisme, comme pour les coureurs kényans, l'Afrique regorge de talents. Le seul problème maintenant, c'est l'outil, c'est-à-dire les jeux, l'ordinateur ou le téléphone. D'où la création de la Confédération africaine. On va accompagner pour que les jeunes talents disposent de ces outils pour qu'on puisse aller glaner des médailles. Il y a des chances, parce que le talent existe en Afrique.
Restons sur le Maroc, Hicham. Comment en êtes-vous venu à ce niveau d'excellence? Parce que vous nous avez parlé de très, très bons résultats. Comment êtes-vous parvenu à cela?
Ben déjà, ça s'inscrit dans la vision donnée par Sa Majesté le Roi Mohamed VI, qui veut justement qu'il y ait une inclusion de toute la jeunesse, et que ça soit par le sport. Surtout par le sport, vous avez vu toutes les infrastructures qui ont été mises en place.
Et surtout les résultats, pour le football notamment.
Les résultats, parce que voilà, donc pour le football, les académies qui sont mises en place, et le gouvernement. C'est-à-dire, il y a une vision de Sa Majesté, comme je vous ai dit, pour la jeunesse et pour l'Afrique, hein, parce que aussi, c'est pour ça qu'il y a eu la création de la Confédération africaine, et c'est déployé justement par une stratégie opérationnelle emmenée par un gouvernement et que moi je suis en train d'exécuter.
Restons toujours au Maroc. Vous êtes à la tête d'une toute jeune fédération dont vous êtes le fondateur, qui existe depuis 2020. Comment fonctionne-t-elle? Quels moyens? Et comment s'organisent les compétitions?
Alors, elle fonctionne comme toute autre fédération. Hein. Donc, pour créer une fédération, il faut qu'il y ait des associations. Donc, il y a eu une vingtaine d'associations. Ça commençait à très bien bouger dans le gaming et on voyait qu'il y avait une vraie attente. Donc, on a constitué un dossier juridique. On est parti voir à l'époque le ministère de le sport relevé de la jeunesse et de la communication et de la culture. Donc, ils nous ont accompagnés. Et puis, on dispose d'une subvention annuelle et la loi nous confère donc toutes les prérogatives pour organiser des compétitions et les sponsors suivent. Et on a créé une émulation et une attente, que ce soit des côtés des joueurs ou des sponsors. Et donc, la mayonnaise, j'avoue, a facilement pris. Et je ne vous cache pas le fait que je dirige aussi un média à faciliter les choses. Donc, promouvoir ce sport, ça a facilité les choses. Donc, voilà, c'est un ensemble. Mais il y avait d'abord une volonté politique gouvernementale.
Est-ce que vous promouvez aussi ce sport auprès des jeunes filles?
Mais bien sûr. De toute façon, maintenant, c'est simple. Au Maroc, comme vous l'avez vu, avec la politique Sa Majesté, la Moudawana, donc maintenant, c'est l'égalité. Hein. Donc, on ne réfléchit même plus homme-femme. Quand on fait une action, c'est pour hommes et femmes. Un exemple, l'année dernière, l'équipe féminine du Maroc est partie arracher la deuxième place au championnat arabe. L'année dernière aussi, pour les Jeux FIFA, on avait une fille qui était parmi les 8 meilleures joueuses. Donc, tout le temps, c'est masculin-féminin pour toutes les compétitions. On ne se pose plus la question.
Hicham, c'est la jeunesse qui joue au e-sport, notamment les plus jeunes. Quelle est votre responsabilité et votre rôle vis-à-vis d'elle?
Ma responsabilité, elle est celle d'abord d'un père. Vous voyez ce que je veux dire? D'abord, je suis papa, enfin, moi, je ne suis pas dans l'interdiction, mais je suis plutôt dans la régulation. Bien sûr, il ne faut pas l'addiction et je suis contre l'addiction, hein, que ce soit pour toute chose. Donc, il faut rester dans la tempérance, il faut rester dans la modération et à partir de là, bah, les enfants y jouent. On sait qu'il y a des jeux qui sont bien, qui sont éducatifs. On peut développer des aptitudes cognitives. Hein. Donc, par exemple, pour piloter des drones, même dans l'armée, on choisit des gamers. Et un gamer, il peut faire plusieurs choses en même temps. Il peut jouer, il peut discuter, manger et même parler au téléphone pour vous dire que ces aptitudes entre guillemets neuronales qu'on développe. Donc on sait que c'est bien, mais que comme toute chose, il faut l'utiliser avec modération. Et ça, c'est un souci même sur lequel notre ministère de l'Éducation il veille sur ça. Donc on est là, nous, on sait qu'on est pour un jeu responsable et comme je vous ai dit tout à l'heure, on évite les jeux de guerre. Et en plus, on essaye tant bien que mal que ne pas que de jouer en ligne. C'est-à-dire tous nos tournois finissent toujours par des tournois en présentiel, comme ça les joueurs sont en contact.
Merci Hicham de nous avoir éclairé sur cette activité sportive. Et je dis bien sportive, Hicham. En tout cas, nous allons suivre votre développement, le développement du e-sport marocain et du e-sport africain.
Merci.
They get my time. Is there someone else? You did do me corny. Every day new story. Say I just they waste my time. Cause you don't become someone else. See palava for me. You know they touch my body. It feels good to love somebody and somebody loves you back. But it feels one-sided now. It feels one-sided now. You don't have to pretend about it, cause it's crystal clear now, now. Guess it's bye to the good times. I'll be gone by the sunrise. I'll be better on my own. I'll be better on my own now.
when I'm gone, I make you nervous. If you hurt me, I deserve it. I've been acting foolishly, forgetting what you were. You start loving me, I know this. But even chaos serves a purpose.
It feels good to love somebody and somebody loves you back. So don't give in till you change mind, cause I'll be here for a lifetime. You don't have to pretend about it, cause it's crystal clear now, now. Guess it's bye to the good times, and I'll be gone by the sunrise.
Le Nigeria en force avec Ayra Starr, Last Heartbreak Song. Chaque semaine dans l'Afrique en jeu, nous vous racontons un épisode marquant inscrit dans l'histoire des Jeux. Aujourd'hui, les sports disparus et oubliés des Jeux Olympiques.
Le 200 mètres nage avec obstacle. Encore une épreuve apparue au JO de Paris en 1900 et disparue aussitôt l'édition suivante. Il faut dire que celui-ci est original, on dirait qu'ils ont pris des sports existants et qu'ils ont inventé de nouvelles règles pour en faire de nouvelles épreuves. C'est en quelque sorte l'équivalent du 200 mètres haies, mais dans l'eau, puisque les nageurs devaient passer sous et par-dessus des rangées de barques. Oui, des barques, car cette année-là, toutes les épreuves de natation ne se sont pas déroulées dans une piscine, mais dans la Seine. On a du mal à imaginer que ce soit encore possible aujourd'hui, c'est pourtant ce que souhaite Anne Hidalgo, maire de Paris, le tir au pigeon vivant. Vous connaissez le ball-trap, ce sport toujours existant au JO, qui consiste à tirer au fusil sur des plateaux en argile. Eh bien, son ancêtre est un peu moins écolo, puisqu'il fallait abattre en plein vol des pigeons vivants, et cette fois-ci, je parle bien de vrais animaux. Une discipline apparue pendant l'édition des Jeux de 1900, à Paris, durant laquelle près de 300 oiseaux ont été tués, dont 21 d'entre eux uniquement par le vainqueur belge de l'épreuve. Un véritable carnage, puisque le sang et les plumes explosaient dans les airs pendant que d'autres pigeons à moitié touchés agonisaient au sol. On raconte même que des femmes pleuraient dans les gradins pendant les épreuves.
Un extrait que nous avons emprunté au youtubeur La Top 10, auteur de cette production sur les sports oubliés des Jeux Olympiques. Bien heureusement, le tir au pigeon vivant, ce carnage de volatile, a tout de suite disparu. Il ne sera considéré olympique qu'une seule fois, aux Jeux Olympiques de Paris en 1900. Une photo sur l'application Pure Radio de RFI à la page L'Afrique en jeu vous donnera un aperçu de l'ambiance lors du 200 mètres nage avec obstacle. Sandrine Lemaire, vous êtes historienne, enseignante en classe préparatoire à grandes écoles et co-directrice de l'association pour la connaissance de l'histoire de l'Afrique contemporaine. On comprend aisément la disparition du tir au pigeon, mais pourquoi le 200 mètres avec obstacle dans la Seine a disparu, Sandrine ?
Alors, il est intéressant de noter quand on parle de ces sports disparus ou insolites, hein, c'est le terme qu'on utilise souvent et fréquemment, c'est que certaines de ces disciplines naissent avec les Jeux Olympiques et donc avec leur temps. Et pourquoi ce 200 mètres nage avec obstacle a disparu ? Parce que, évidemment, nager dans la Seine, ça semblait totalement insolite. Il fallait trouver donc des sites. Et ce ne sont pas vraiment des sports. En fait, à l'origine, on a soit des sports qui sont liés à l'origine des Jeux Olympiques, à savoir leur origine très aristocratique avec Pierre de Coubertin. Et donc, on a des sports qui sont des sports bourgeois ou aristocrates tels que la chasse. Vous avez parlé du tir au pigeon réel, mais il y avait le tir au cerf courant. Alors le cerf courant n'était pas un vrai cerf qui courait, mais une cible, mais néanmoins ça a duré jusque aux Jeux de 1920. Par exemple, le tir au cerf courant et le champion olympique, c'est Swan, un Suédois qui est le plus vieux champion olympique à ce jour, 72 ans. Et puis, on a des sports qui sont liés à l'époque, aux régions. Donc on avait le grimper à la corde, le croquet, la pêche à la ligne en 1900. Et l'idée, c'est qu'on avait beaucoup de sports de démonstration. Et ça a été le cas de ce 200 mètres nage avec obstacle.
Quel autre sport exotique de démonstration ont disparu des Jeux Olympiques à cette époque dont nous parlons ?
Alors, on retrouvait par exemple aux Jeux de 1900, à titre de sport qui était effectivement inscrit dans un programme, mais plus celui de l'exposition universelle qui n'a pas été homologué ensuite par le Comité international olympique, tel que le saut sans élan, le polo à bicyclette. On était dans la grande époque du vélo. Et on a par exemple un sport de démonstration en 1900 qui est absolument fabuleux, qui est quand même l'idée de tondre des caniche, donc la tente de caniche. Il fallait tondre le plus de caniche possible en deux heures. 128 participants et 6000 spectateurs, et qui était un sport de démonstration et qui a été abandonné immédiatement. Mais il faut rappeler que dans l'air du temps, on était dans un contexte de montée des tensions avant la Première Guerre mondiale, et on a eu également en 1900 les courses d'aérostats, donc les ballons dirigeables, qui ont servi d'ailleurs pendant le premier conflit mondial, hein, c'était la naissance de l'aviation, et des compétitions de tir au canon.
Nous sommes à la naissance des Jeux Olympiques. La disparition de ces sports est-elle due à une organisation qui se testait, qui cherchait son modèle, Sandrine ?
Oui, tout à fait. On est avant la Première Guerre mondiale, dans des Jeux Olympiques qui cherchent leur voie, qui ont du mal à se dissocier des grandes expositions universelles. Ça ne sera le cas qu'après 1908, d'ailleurs, pour l'édition de 1912 à Stockholm. Et du coup, on n'a pas de programme jusqu'en 1912. Le CIO ne s'occupe pas d'homogénéiser ses programmes. Et donc, on a des compétitions et des sports qui sont inscrits par les pays autant qu'ils le veulent.
Sur les 5 nouveaux sports présents aux Jeux Olympiques de Tokyo en 2021, 3 ont été reconduits à Paris 2024. Le surf, l'escalade et le skateboard. Le softball, qui est très populaire au Japon, et le karaté n'ont pas passé le cut, pour utiliser un terme de golf. Or, le karaté est un sport où les Français excellent et gagnent de nombreuses médailles. Les Jeux Olympiques ont-ils connu une période de stabilité sur son catalogue de sports ?
Alors oui, de fait, depuis les Jeux de 1920 à Anvers, donc dans l'immédiate après-guerre, jusqu'aux Jeux d'aujourd'hui, en réalité, on a un catalogue de sports très précis. Alors ne reste dans ce catalogue, depuis la naissance des Jeux Olympiques, que l'équitation, que certaines épreuves d'athlétisme, comme le lancer du disque, on appelait ça le discobol. D'ailleurs, on a la lanceuse de disque qui est officiellement désignée comme porteuse de flamme. Et on a des épreuves telles que l'escrime, par exemple, ou l'équitation, qui reviennent de manière récurrente. Mais c'est seulement en 2020 que le CIO a programmé l'idée que les pays organisateurs pouvaient ajouter 5 sports additionnels à ce catalogue plutôt figé de disciplines reconnues internationalement depuis 1920.
Nous avons évoqué l'arrivée du e-sport dans la galaxie olympique avec l'objectif de capter un nouveau public. Qu'est-ce qui a commandé l'entrée et la sortie de disciplines dans l'histoire des Jeux Olympiques ?
Donc il y a l'intérêt national, on le voit bien quand la France place le breakdance ou le skate aux Jeux de 2024, c'est bien pour remporter des médailles parce qu'on a des athlètes sportifs qui brillent dans ces disciplines, donc il y a cet intérêt-là. Et puis évidemment, je pense très sincèrement qu'il y a l'intérêt médiatique derrière, c'est-à-dire qu'est-ce qui peut attirer de nouveau vers les Jeux Olympiques quand on sait qu'aujourd'hui ils sont très contestés tant pour leur coût financier que pour leur coût environnemental, de mettre du breakdance et du skate, ça attire de nouveau les jeunes. Donc nécessairement, il y a cela. Et on connaît les 5 sports additionnels de Los Angeles en 2028. Et on retrouve un baseball, softball, du cricket, un flag football qui est une variante du football américain. Nécessairement, on trouve ces sports dans lesquels brille la nation.
Merci Sandrine. Merci d'être venue, de nous avoir encore éclairé avec votre savoir sur les Jeux Olympiques et l'histoire des Jeux. L'Afrique en Jeu, c'est terminé. Merci à la Sonothèque pour les archives et à Cécile Bonisset à la réalisation. Pour se quitter, je soumets à votre sagacité l'aphorisme de Bruce Lee. Bruce Lee qui disait « Le souvenir est le seul paradis dont on ne peut vous chasser ». Nous nous retrouverons même heure, même endroit la semaine prochaine. Toutes les émissions de l'Afrique en Jeu sont disponibles en balado-diffusion dans les podcasts de votre application Pure Radio de RFI. Et surtout, le plus important, prenez soin de vous.